Bonsoir à toutes et tous. Hello la team.
Bonsoir à tous
les gars.
Bonsoir, bonsoir.
Alors je dis les gars, oui, parce que vous l'aurez compris, effectivement, notre cher et tendre ami Farida n'est pas là, elle a un petit souci de santé.
Wow.
Donc on lui fait un gros bisou.
Bisous.
Pense fort à elle. Gros bisous Farida.
Bon rétablissement.
Alors les copains, je vais être honnête avec vous, quel bonheur de vous retrouver après ces deux longs mois d'absence.
Yes. Ah.
Ravi que vous soyez à nouveau à mes côtés pour cette nouvelle émission de rentrée.
Merci.
Et quel mensuel les amis. Ce soir, nous avons le privilège de recevoir deux chercheurs de renom qui ont participé à l'élaboration d'une exposition itinérante initiée par l'INSERM, qui est pour rappel l'Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, intitulée « Racisme d'hier et d'aujourd'hui, sciences et préjugés ». Reprend les compétences allant des sciences humaines et génétiques qui visent le respect de l'égalité et l'élimination de la discrimination raciale dont le but ultime est de déconstruire la notion de race. Bernard Benitruy est directeur de recherche de l'INSERM, généticien moléculaire de formation. Il a longtemps travaillé en laboratoire en recherche fondamentale. Il travaille à la délégation régionale de l'INSERM PACA et Corse comme chargé de communication scientifique, s'occupant notamment de réaliser une exposition grand public sur la vaccination. J'ai bien dit qu'il travaille. Il est tout jeune, retraité et chercheur émérite. Pour celles et ceux qui se posent la question, l'éméritat est le titre qui permet à un chercheur admis à la retraite de continuer à porter son concours à titre accessoire et gracieux aux activités de recherche. Mustapha El-Mehri, quant à lui, est sociologue et maître de conférence d'Aix-Marseille Université au LEST. Donc le LEST, c'est le laboratoire d'économie et de sociologie du travail. Je vous invite à googliser, oui, c'est bien le terme, googliser, son nom sur Internet. C'est fascinant le nombre de sujets qu'il a traités et de conférences qu'il a données à travers le monde. Rien que la lecture de son CV vous donne le tournis. Impossible de le résumer en deux lignes, j'ai fait succès. Bonsoir Bernard.
Bonsoir.
Et bonsoir Mustapha.
Bonsoir.
Nous sommes ravis, messieurs, de vous recevoir ce soir en cette rentrée sur le plateau de Radio Galère. Encore merci à vous d'avoir accepté notre invitation.
Bienvenue dans l'univers vibrant de la cité métisse où les ondes se mêlent et célèbrent la diversité en musique.
Je les aurais
séchée.
Bienvenue sur la Cité Métisse, vous êtes bien avec Vao sur Radio Galère, 88.4 de la bande FM à Marseille.
Merci, Mamène Defray. Donc nous étions avec toi avec Davy Sicard, vous n'aurez pas mes larmes. Donc Davy Sicard est l'enfant chéri du Maloya moderne depuis presque, en gros en fait, une trentaine d'années. Sur la scène internationale, il a fusionné les codes du Maloya traditionnel avec ses influences soul, jazz, funk, de la variété française et créole, créant son fameux, comme lui il appelle en fait, le Maloya cabossé. Fervent défenseur de la créolité, il a interpellé ses compatriotes sur la question de l'identité réunionnaise en alliant chansons et enjeux de société. Artiste généreux et proche du public, son œuvre est ainsi le reflet de l'homme métissé, porté par des convictions profondes, mais surtout traversé d'émotions qui donnent à sa voix son empreinte si particulière. Alors un coup tantôt caressante et veloutée, tantôt féroce et volcanique. Nous venons d'écouter un extrait de son dernier album Bal Kabar. Il est actuellement en tournée de septembre à octobre dans l'Hexagone. Il sera, les amis, à Marseille le 27 et 28 septembre au Makeda. Nous aurons la chance en fait de le rencontrer pour une magnifique interview, comme on fait d'habitude hors les murs, à suivre lors de nos prochaines émissions.
Oh,
Salut à tous, c'est Stéphane Castries et j'écoute La Cité Métisse avec Séverine, Richard, Defray et Laurent sur Radio Galère 88.4 de la bande FM à Marseille. À bientôt.
Bon les amis, je vais pas vous manquer de respect en vous disant effectivement que c'était Maxime Le Forestier, être né quelque part. Donc Maxime Le Forestier décide d'écrire un hymne antiraciste soudé par des sonorités africaines en révolte contre la loi Pasqua. Donc le 9 septembre 1986 est promulguée la loi Pasqua afin de faire reculer l'immigration qui dit qu'un enfant né en France de parents étrangers ne devient plus automatiquement français à sa majorité. Ou comment substituer le droit du sang au droit du sol. Donc à cette période, le Front National commence à se faire de plus en plus présent, ce qui amène de nombreux débats concernant le sujet de l'immigration. Le titre est une référence à la chanson de Georges Brassens, La balade des gens qui sont nés quelque part.
C'est vrai qu'ils sont plaisants, tous ces petits villages, tous ces bourgs, ces hameaux, ces lieux-dits, ces cités, avec leurs châteaux forts, leurs églises, leurs plages, ils n'ont qu'un seul point faible, et c'est d'être habité. Et c'est d'être habité par des gens qui regardent le reste avec mépris du haut de leur rempart. La race des chauvins, des porteurs de cocardes, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Maudits soient ces enfants de leur mère patrie, empalés une fois pour toutes sur leur clocher qui vous montre leur tour, leur musée, leur mairie qui vous font voir du pays natal jusqu'à Loucher, qu'ils sortent de Paris ou de Rome ou de Sète ou du diable Vauvert ou bien de Zanzibar ou même de mon cul, ils s'en flattent mazette, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Le sable dans lequel douillettent leurs autruches enfouissent la tête. On trouve pas plus fin quant à l'air qu'ils emploient pour gonfler leurs baudruches, leurs bulles de savon. C'est du souffle divin. Et petit à petit, les voilà qui se montent le cou jusqu'à penser que le crottin fait part. Leurs chevaux, même en bois, rend jaloux tout le monde. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. C'est pas un lieu commun, celui de leur naissance. Ils plaignent de tout cœur les pauvres malchanceux, les petits maladroits qui n'eurent pas la présence, la présence d'esprit de voir le jour chez eux. Quand sonne le tocsin sur leur bonheur précaire contre les étrangers, tous plus ou moins barbares, ils sortent de leur trou pour mourir à la guerre, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Mon Dieu, qu'il ferait bon sur la terre des hommes si l'on y rencontrait cette race incongrue, cette race importune et qui partout foisonne, la race des gens du terroir, des gens du cru. Que la vie serait belle en toutes circonstances si vous n'aviez tiré du néant ces jobards. Preuve peut-être bien de votre inexistence, les imbéciles heureux qui sont nés quelque part. Les imbéciles heureux qui sont nés quelque part.
La Cité Métisse, Radio Galère, sur le 88.4 de la bande FM, à Marseille.
Yeah! Donc on était avec Georges Brassens, La balade des gens qui sont nés quelque part. Donc messieurs, en fait, on voulait vous réitérer, effectivement, en fait, on est très content en fait de vous recevoir et tout sur le plateau. Puisque moi, effectivement, après, j'ai découvert et tout cette magnifique exposition. Donc forcément, après, on a été, qui, je le rappelle, en fait, s'appelle Racisme d'hier et d'aujourd'hui, science et préjugés. Donc on va rentrer un petit peu plus et tout dans le détail. On a quasiment... une bonne heure et demie, en fait, un peu moins maintenant d'une heure et demie pour le faire. Donc, mais j'ai une première question en fait pour Bernard en fait qui me brûle les lèvres. Donc on attaque directement avec toi Bernard. Est-ce que tu peux en fait nous donner un aperçu justement de cette exposition? Alors peut-être en deux minutes ça va être compliqué. Que tu as en fait ou que vous avez en fait initié. Et j'ai une deuxième en fait une partie. Quels sont les principaux objectifs de cette exposition?
Bien. Alors je vais essayer d'être de rester dans les deux minutes, c'est ça?
Non. Allons voyons, c'est pas timé chez nous.
Non, mais tout simplement la question de le point de départ, c'était le racisme et est-ce qu'on pourrait pas construire quelque chose ou déconstruire plutôt ces pseudo-arguments qui sous-tendent le racisme à travers une exposition. Et c'est un peu ce qu'on a essayé de faire avec cette expo, qui est, je le précise tout de suite, une œuvre collective. Hein. On a travaillé avec, bien sûr, Mustapha Amiri, qui est présent ici sur le plateau, mais aussi avec Delphine Peretti, historienne du racisme, et Sylvana Condemi, qui est... une paléo-anthropologue. Ouais. Ça nous a permis de balayer en quelque sorte ce problème depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Et c'est pour ça que ça s'appelle d'hier à aujourd'hui, justement. Voilà, en deux mots, c'est un peu ce qu'on a voulu dire. Je voudrais préciser tout de suite que pour mon point de vue, mon sentiment, c'est que le racisme, il est unique. Il n'y a pas des racismes, il y a un racisme qui se présente sous plusieurs formes qu'on peut historiquement très facilement visualiser dans l'histoire, mais qui a des formes très différentes aujourd'hui, mais finalement le ressort de tout ça, eh bien, il est identique et il est commun, et c'est un peu ça que on a voulu déconstruire dans cette exposition.
Alors, moi, Bernard, en fait, avant d'enchaîner en fait sur le reste, j'ai une question. Effectivement, moi, ce qui m'intéresse, c'est un petit peu la genèse. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi, à un moment donné, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, justement, en fait, avec ce collectif, avant de monter ce collectif et tout, etc., qui a eu cette idée de s'attaquer et tout à un tel sujet? Parce qu'il y a énormément, effectivement, de personnes depuis tant d'années, en fait, qui relatent, effectivement, des faits et tout par rapport à ce sujet-là. Donc là, vous avez voulu choisir cet aspect effectivement après scientifique, mais moi ce qui m'intéresse c'est d'où ça vient, la genèse effectivement de mettre un sujet, ce sujet là en fait en avant.
Oui, la genèse elle est très simple, hein. C'est que on est confronté tous les jours, bon, on peut prendre l'exemple des cris racistes dans les stades de foot par exemple, hein. Ouais. C'est ça qui m'a fait réagir au départ dans cette histoire, puisqu'on était un petit peu à l'initiative et on a voulu, tordre le cou un peu à cette histoire de racisme et de dire que voilà, on a une forme de racisme maintenant tous les jours, qu'on voit tous les jours, qu'on entend tous les jours, et c'est pas supportable, quoi, c'est pas supportable. Donc il fallait faire quelque chose. Et nous, notre point de vue, c'est un point de vue scientifique. Et ce qu'on a voulu montrer, c'est que ces ressorts racistes n'ont aucune base scientifique.
D'accord. Très bien. Comme tu l'avais déjà fait précédemment, par exemple, avec la vaccination. Sur la vaccination.
Alors, la vaccination, c'était un autre problème. La vaccination, c'était vraiment... on était confrontés, je pense, à des doutes dans la population qui ne comprenaient pas parce qu'ils entendaient plein de sons différents, de cloches... Ouais. Et donc, une mise au point scientifique, c'est un peu ça qu'on a voulu faire avec la vaccination. C'est un peu la même chose qu'on fait avec le racisme.
D'accord.
Bonsoir, Mustapha.
Bonsoir.
Pouvez-vous nous parler un peu de votre parcours en tant que sociologue et de votre implication dans la création de l'exposition « Racisme d'hier et d'aujourd'hui, science et préjugés » ?
Bon, je ne vais pas revenir sur l'ensemble du parcours, mais simplement une partie qui peut éclairer... le fait d'avoir participé à cette exposition. Je travaille sur les questions migratoires depuis maintenant plusieurs années. Et j'ai travaillé pendant longtemps sur les questions migratoires, les gens qui bougent d'un territoire à l'autre avec une vision critique, mais sans avoir vu, dans un premier temps, les enjeux liés au racisme. Et pour moi, j'ai découvert ça quand je l'ai découvert scientifiquement. Le racisme, on le connaît, comme vous l'avez dit, c'est quelque chose aujourd'hui qui fait partie du discours mainstream quasiment. parmi certains intellectuels ou intellectuels médiatiques, parmi les hommes politiques. Donc, c'est pas une découverte. Par contre, je l'ai découvert scientifiquement le jour où j'ai suivi des populations subsahariennes au Maroc et j'ai vu. J'ai pas découvert le racisme, mais j'ai découvert à quel point le racisme pouvait rythmer des vies. Et c'est peut-être ça que je ne voyais pas suffisamment, parce que lorsqu'on parle de racisme, on est souvent sur l'idée, bon, ce sont quelques agressions par-ci, par-là, ce sont quelques discours politiques nauséabonds, ce sont quelques cris hostiles à tel ou tel joueur de foot. Et moi, j'ai découvert quelque chose de bien plus fort que ça. Le racisme, c'est quelque chose qui va fonctionner comme une injonction de vie pour une partie de la population qui, du matin, lorsqu'elle se réveille jusqu'à ce qu'elle se couche, et confrontée à ces questions racistes. Et c'était notamment les populations noires, et j'avais été frappé par l'importance que prenait dans certaines vies ce racisme. Et j'avais été frappé aussi par le fait que je n'avais pas vu ça pendant des années. Et donc ça interroge. Vous voyez, pourquoi, même si on voit le racisme, l'importance qu'il requiert nous est difficile. C'est un peu comme les questions des rapports de genre, où je discute beaucoup avec ma collègue qui est présente ici, Flora Bajard, sur ces questions, où pareil, en tant qu'homme, on peut se dire, oui, il y a des inégalités en femmes, et puis en tant que chercheur, on les montre, mais on n'arrive pas forcément à percevoir en quoi la vie d'une femme est rythmée toute la journée, à partir du moment où elle se lève jusqu'à ce qu'elle se couche, par ses rapports sociaux. Ouais, ce sont ces éléments-là qui m'ont amené à travailler sur le racisme, notamment le racisme anti-noir, et puis il y a eu cette excellente initiative lancée par Bernard et l'Inserm, d'expo sur le racisme, et moi j'y ai vu un support différent des articles scientifiques qui sont lus par des scientifiques ou qui peuvent être lus entre nous. Alors là, ce qui était proposé par l'expo sur le racisme, c'est d'une part de vulgariser ce travail-là, de le synthétiser et de le diffuser de manière plus large. Vous voyez, donc j'ai tout de suite répondu à l'INSERM, mais j'ai trouvé que l'initiative était vraiment superbe, et le fait qu'elle soit menée par l'INSERM est pour moi assez intéressant et important, parce qu'on aurait pu attendre que ce soit le CNRS, peuplé de sociologues et de sciences humaines, histoire et autres, qui lance ça, et ça a été l'INSERM. Donc c'est intéressant, y compris sur le découplage scientifique en France, où c'est l'INSERM qui lance une expo sur le racisme, et non pas les gens du CNRS. Donc vous voyez l'intérêt de la question.
Alors, moi, il y a un truc, effectivement, et tout, qui m'intéresse, quand tu parles, effectivement, de... Tu as suivi des populations, donc tu, vraiment, en fait, tu as vécu en fait avec eux. Ça s'est passé. Moi, ça m'intéresse. Ça s'est passé comment exactement? Alors, quand tu rentres en fait dans ces études-là.
Le terme vécu, il faut faire attention, parce que beaucoup d'anthropologues, de sociologues disent on vit avec. On vit pas avec à partir du moment où on n'a pas la même contrainte que ce que les gens vivent. Donc on les suit toute la journée. Et là, on revient de plusieurs enquêtes au Maroc avec Flora auprès de populations subsahariennes qui vivent dans la rue. Et à chaque fois qu'on rentre à l'hôtel le soir, nous. On sait qu'on ne vit pas avec. Par contre, voilà, c'est, nos méthodes de recherche, ce n'est pas travailler de manière statistique à distance, ce n'est pas simplement des entretiens, mais c'est suivre les gens dans la durée. Et ces populations subsahariennes, moi, je les ai suivies pendant quasiment 4 ans, dans différents lieux. Parfois, retrouver les mêmes jeunes qu'on suivait, vivre avec eux des journées entières. Vous voyez, vivre avec eux, ça ne veut pas dire vivre ce qu'ils vivent. Même lorsqu'on s'en aperçoit, comme je lui ai dit, nous, on rentre le soir à l'hôtel, on reprend l'avion pour revenir en France, on rentre dans nos institutions, eux restent dans la rue. Donc j'insiste sur le fait qu'on ne peut jamais vivre à 100% ce que les autres vivent lorsqu'ils sont dans cette situation. Donc oui, c'est les suivre sur la très très longue durée et voir leur évolution. Et dans différents pays, là je l'avais suivi au Maroc, en Espagne et en France, parce qu'il arrive que parfois certains arrivent à passer en Espagne, arrivent à passer en France, et on garde le contact, on les suit.
D'accord.
Voilà. C'est ce qu'on appelle des méthodes de recherche qualitatives. Alors, je sais que beaucoup de sociologues parlent d'ethnographie, mais en réalité, elle n'est pas si pratiquée que cela.
D'accord. OK. J'ai une question, effectivement, pour Bernard. Donc, le titre de l'exposition suggère, en fait, que le racisme est un phénomène qui a évolué à travers le temps. Pourrais-tu expliquer comment le racisme, ou ta perception à toi, en fait, d'aujourd'hui, diffère de celui du passé?
Alors, pour moi...
D'ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que finalement, si on regarde l'histoire, en effet, on va commencer à l'esclavage au XVIIe siècle. Donc en effet, c'est plus du tout la même forme de racisme qu'on a de nos jours, bien sûr. Mais finalement, le ressort psychologique principal, il reste le même. Hein. C'est en gros, on peut résumer par une peur irrationnelle, finalement, de l'étranger. C'est un peu ce que disait dans la chanson précédente. Et, implique, et surtout, ça implique une hiérarchisation des races et des individus. Voilà, donc, quelle que soit l'époque, finalement.
Alors, Moustapha, quelle était la principale motivation derrière la création de cette exposition contre le racisme et comment espérez-vous qu'elle influence les mentalités ?
Alors, la motivation a été un peu présentée par Bernard. Je pense qu'on est toujours là, dans cette idée-là, à travers une exposition, de diffuser auprès de publics un peu plus large et de manière un peu plus synthétisée pour que l'entre-soi des scientifiques dépasse les murs ou les enclos de l'INSERM, du CNRS et qu'on aille discuter avec les populations sur ces questions. Le changement des mentalités, ça serait prétentieux de penser qu'une exposition peut changer les mentalités. Par contre, l'importance d'une exposition de ce type-là, dans un contexte comme le nôtre, où une partie des discours racistes, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont mainstream, c'est-à-dire qu'ils sont acceptés, ils deviennent acceptables à la télévision. Vous voyez, on a quand même des chaînes de télévision qui diffusent quasiment toute la journée de l'info continue basée sur une vision racialisée du monde, voire raciste parfois, dans certains propos, puisque certains ont été condamnés.
On voit bien.
Voilà, je m'appuie sur les condamnations officielles des autorités médiatiques et autres. Donc, je ne suis pas simplement dans quelque chose du ressentiment. C'est des faits. Hein. C'est des faits. Ils ont été condamnés pour appel à la haine raciale. Certains ont été condamnés. Donc, dans ce contexte-là, avoir cette expo, même si elle est modeste, même si elle est minime, c'est simplement ouvrir une petite fenêtre de respiration pour ceux qui souhaiteraient que le monde soit autrement et leur donner un peu des outils, leur dire... Venez un peu respirer à travers ces panneaux-là. Prenez un peu de souffle pour retourner à la bataille. Moi, c'est ça mon espérance là-dedans, c'est de redonner du souffle à ces gens en disant, voilà, il y a 5, 6, 10 panneaux, 11 panneaux. Ces panneaux sont une fenêtre ouverte sur une respiration intellectuelle dans un moment de fermeture ou d'encapsulement de la pensée scientifique, d'encapsulement de la pensée politique. Ben là, il y a 11 panneaux qui peuvent vous permettre d'avoir quelques arguments qui vous permettront de discuter à table et de remettre en cause des choses qui sont posées comme des vérités. Alors ces petits panneaux, ils peuvent donner lieu à des milliers de petites discussions. Pour moi, l'enjeu, il est juste là.
D'accord.
Alors l'un des points clés en fait, que vous avez tous soulevé est que le concept de race pour les humains n'existe pas sur le plan génétique. Donc pourrais-tu, Bernard, s'il te plaît, nous expliquer davantage en quoi consiste cette idée et quelles sont les preuves scientifiques à l'appui ?
Je vais essayer d'être synthétique. Oui. En fait, la classification des êtres vivants, elle est très claire jusqu'à la notion d'espèce. Vous savez qu'il y a une hiérarchisation dans le classement. On arrive à la notion d'espèce où tous les individus d'une même espèce sont interféconds. Quand on descend un peu plus bas et qu'on arrive à la notion de race, eh bien là, ça commence à se compliquer. Hein, parce que finalement, la notion de race en biologie, qu'est-ce que c'est ? À part les animaux domestiques, la notion de race, elle n'existe pas. Ça n'existe pas. Elle est très bien définie chez les animaux domestiques. Elle est très bien définie parce que, en effet, si on prend l'exemple des chiens, par exemple, vous savez qu'il y a des races de chiens qui sont à un degré de pureté. On peut avoir des races pures, mais n'oublions pas une chose, c'est qu'il y a une race pure de chiens que s'il y a intervention humaine. C'est-à-dire que si vous laissez les chiens se reproduire, il n'y a plus du tout d'espèces de races chez les chiens. Donc... ça, très, très rapidement, on avait cette notion que la notion de race était spécifique, particulière aux animaux domestiques. Et ça s'est conforté par les études de génétique récentes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, parce que ce serait trop laborieux, mais on sait maintenant décrypter le génome entier de n'importe quel animal et de n'importe quel être humain maintenant. Et donc, on a pu constater qu'en effet, à cette notion biologique de race dans les animaux domestiques correspondait une notion génétique qui consistait en fait à retrouver les mêmes signatures génétiques communes à tous les individus d'une même race de chien, par exemple. Un chihuahua, vous prenez un autre chihuahua, il va avoir des séquences, des signatures génétiques identiques d'un individu à un autre. Donc la notion de race chez les animaux domestiques, elle est définie comme ça. avec une proportion de signatures génétiques identiques qui sont spécifiques d'une race. Vous aurez des dogs et donc des séquences spécifiques qui vont faire que le dog sera dog. Eh bien, quand on transpose ça à l'espèce humaine, eh bien, c'est là que ça coince, puisque on n'a jamais pu trouver une population humaine qui soit génétiquement homogène, avec des signatures qu'on retrouve identiques d'un individu à un autre. En fait, les brassages génétiques dans l'espèce humaine et dans les populations humaines ont fait que nous sommes tous une résultante de signatures génétiques de populations d'origine différente. Dans chacun de nous, avec des proportions variables, on a une proportion de signatures. Bon, chez un être humain blanc, par exemple, comme moi, on va trouver des signatures d'origine africaine, des signatures d'origine asiatique, des signatures de diverses origines, avec des proportions variables d'un individu à un autre. Pour ça que d'ailleurs que quand alors c'est interdit en France, mais vous savez que dans aux États-Unis par exemple, vous pouvez envoyer votre ADN et on va vous donner votre pourcentage dans votre pourcentage. Alors pour un homme blanc, évidemment, il y aura une proportion de séquences de signatures blanches d'origine blanche prépondérante, mais il y aura toujours des séquences d'origine diverses et variées.
D'accord.
Donc, vous pouvez trouver une vidéo comme ça d'un suprémaciste blanc qui reçoit son analyse d'ADN et qui est complètement étonné.
Du pourcentage africain.
il y a des signatures africaines dans son génome et il ne comprend pas. Eh bien oui, c'est ça, c'est tout simplement ça. Ça veut dire que... alors, il ne s'agit pas de nier les différences génétiques entre les populations. C'est-à-dire que on va trouver des signatures. Par exemple, c'est très bien défini dans les gènes qui codent pour la couleur de la peau. On a bien sûr chez les noirs, couleur de la peau noire, on va trouver les gènes communs d'un individu noir à un autre individu noir, avec des signatures génétiques différentes. Mais quel que soit le caractère qu'on va regarder, on ne pourra jamais trouver une population humaine génétiquement homogène.
C'est super. Tu sais pourquoi, Bernard ? C'est parce que depuis tout à l'heure, je suis en train de penser, on est tous métissés, en fait.
Exactement.
Je résume en deux.
Exactement, on est tous métissés. Bien sûr, on n'a pas pu trouver de population génétiquement homogène dans l'espèce humaine. C'est clair et net, il n'y a pas... La notion de race dans l'espèce humaine n'a pas de sens biologique.
Okay, merci pour ta réponse.
L'exposition aborde le racisme à travers le prisme de la science et des préjugés. Moustapha, pourriez-vous nous expliquer comment ces deux aspects sont liés et en quoi la compréhension scientifique peut contribuer à combattre les préjugés ?
Oui, mais alors, ce que vient d'expliquer Bernard, c'est que la notion de race, génétiquement, ne tient pas la route. Donc ça, c'est la réalité. Mais ce n'est pas parce que la génétique dit ça ne tient pas la route que le social abandonne cette idée de race.
Ah, bien sûr.
Et c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est de voir pourquoi malgré l'avancée de la science, malgré ce qui a été vécu entre 39 et 45, l'antisémitisme et le massacre qu'il a caractérisé, les sociétés humaines ont du mal à se débarrasser de cette notion de race. C'est parce que historiquement, culturellement, elle a été fortement inscrite dans des rapports entre nous, quand je dis entre nous, entre populations du Nord, populations dites du Sud, entre des populations à l'intérieur du Nord, à l'intérieur des Sud. Et donc cette idée que les races ou que les humains sont classés par espèce perdure à travers des indicateurs parfois culturels. Les gens vont confondre des différences de pratiques culturelles ou des différences parfois même de tenue vestimentaire à la notion de race. Donc on va avoir plusieurs confusions qui maintiennent quelque chose qui historiquement a fonctionné pendant longtemps. Ce qui est intéressant, c'est pas de décliner tous les préjugés, mais c'est de voir pourquoi ces préjugés sont-ils aussi ancrés dans nos quotidiens. Ils sont fortement ancrés parce qu'il n'y a pas eu de travail de manière assez importante sur toute la production du racisme durant des siècles et des siècles de colonisation, des siècles et des siècles d'esclavage. Quand vous avez réduit à peu près 25% de la population mondiale à l'esclavage pendant plus de 4 siècles, même si vous abolissez l'esclavage, cette population reste marquée de manière forte. S'il n'y a pas un travail qui est fait sur comment le passage de la période esclavagiste à une période non esclavagiste a fait perdurer une vision de ces populations et plus que la vision, a cantonné ces populations à certaines activités, à certains modes de vie, ne leur laissant pas la possibilité de sortir de ces modes de vie. Donc vous voyez, c'est ça le travail qu'on mène en sociologie sur les préjugés, c'est moins sur le nombre des préjugés qui sont importants que sur leur ancrage social dans nos mentalités. Donc il y a toujours, pour certaines populations, l'idée qu'il existe des races, que ces races sont différentes, et qu'en plus de cette différence-là, il y a une hiérarchie entre les races. Vous voyez, et ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi cela perdure. Si on n'attaque pas la condition, en tout cas les conséquences matérielles de cette idée que les humains sont classés par race et hiérarchisés, on ne comprend pas pourquoi elle perdure. Ce système de vision du monde perdure parce que le classement par race a permis aussi à certaines parties de la population d'exploiter des richesses, d'exploiter des matières premières, d'exploiter des biens d'autres populations sous prétexte qu'elles étaient inférieures. Donc l'idée de race a permis, inférieure ou de race supérieure, a permis à certaines populations de s'enrichir au détriment d'autres. Donc si on n'interroge pas la condition matérielle, on ne peut pas comprendre aussi pourquoi ça a perduré autant d'années. Quand vous avez à votre disposition 7 millions de travailleurs gratuits et que vous passez à un système où on abolit ce système-là, bah, les sociétés ont inventé d'autres systèmes pour maintenir ces anciens travailleurs gratuits à un coût le plus faible possible pour pouvoir en tirer des richesses. Et, voyez, et donc faire perdurer les préjugés, c'est aussi faire perdre d'une certaine manière le peu de valeur ou la dépréciation de ces vies de ces anciennes populations qui étaient vécues comme étant inférieures. Donc cette dimension, elle est un peu peu traitée ou elle n'est pas regardée en tant que telle. Si vous ne comprenez pas ça, ben on ne comprend pas pourquoi les préjugés perdurent. Pour le dire de manière simple, lorsque j'en viens à dire « sale noire », sale arabe, on peut considérer, voilà, on a affaire à une interaction hostile, raciste, mais ces notions-là participent à déprécier ceux qu'on considère comme arabes, elles participent à déprécier ceux qu'on considère comme noirs, et lorsque vous dépréciez des personnes, bah, leur vie, elle est difficile pour trouver un logement, leur vie, elle est difficile pour trouver un travail, rémunéré de manière décente, leur vie, elle est difficile pour être diplômé ou intégrer les bonnes écoles, donc c'est ça le réel. Vous voyez, la notion de race, c'est pas simplement quelque chose de théorique, elle a aussi des dimensions d'ordre pratique de redistribution des richesses entre ceux qui se classent comme supérieurs et ceux qu'on classe comme inférieurs.
D'accord. Merci.
Moi, j'ai une question en fait à vous poser qui me vient à l'esprit quand je vous écoute tous les deux. Donc moi, j'aimerais avoir un point de vue scientifique puisque il y a quelque chose et tout justement en fait que je me suis questionné et tout depuis toutes ces années, c'est que des populations et tout comme tu l'as dit en fait qui ont été mis en esclavage et tout pendant 4 siècles quasiment. Est-ce qu'il y a des choses, effectivement, qui... Alors, c'est pas forcément, en fait, de manière génétique, je vais mal m'exprimer, mais de manière sociétale, effectivement, qui se transmettent, et tout, à leurs descendants. Est-ce que vous avez fait des études et tout là-dessus, en disant qu'il y a des populations et tout qui vont être peut-être pas forcément avilies, mais qui vont moins réagir ou moins s'en sortir, parce que pendant tant d'années, effectivement, après, ils ont été... ces populations-là et tout ont été mis, en fait, ont été considérées, effectivement, et tout, comme des biens meubles.
Est-ce un traumatisme génétique.
Ouais, alors pas forcément peut-être génétique, parce que je sais pas si ça se transmet forcément dans les gènes. Mais est-ce que c'est plutôt sociétal ou tu comprends ce que je veux dire?
Oui, la question est très claire. Je laisserai la partie génétique à Bernard. Moi, je peux répondre sur la partie que vous appelez sociétale ou culturelle. Moi, ce qui me frappe, c'est moins le fait que ces populations se soumettent ou soient dociles. Moi, ce qui me frappe, c'est que malgré des conditions extrêmement hostiles et difficiles, être esclave, c'était interdiction de circuler, c'était on avait droit de vie ou de mort sur vous à n'importe quel moment de la journée. C'était ça, être esclave. Les enfants d'esclaves eux-mêmes étaient dans des conditions extrêmement hostiles. Ce qui est frappant, c'est moins le fait que ces populations sont dociles que leur capacité à vivre et à survivre. Donc moi, je pense que c'est un peu l'inverse, que ces populations ont transmis aux générations qui sont arrivées après une force de vivre qui est incomparable par rapport à celle des populations dites non esclaves. Parce que quand vous regardez votre capacité à survivre, personne, prenez-vous simplement, vous ou nous, on peut se prendre comme exemple, est-ce qu'aujourd'hui on peut s'imaginer vivre dans la peau d'un enfant soldat en Afrique pendant plus de 6 mois ou 4 mois où on ne tiendrait pas la route longtemps? Est-ce qu'on peut vivre dans... les parcours, moi, comme pour ça que tout à l'heure, je dis non, je ne vis pas ce que vivent ces jeunes migrants, dans la capacité de ces jeunes à faire 5000, 6000 kilomètres, à traverser tout le désert du Sahel, à pied, d'accord, à arriver dans les pays d'Afrique du Nord, à traverser la mer, Méditerranée, pour certains un peu plus bas l'océan, à arriver en Europe, à traverser les Alpes et les montagnes et arriver... Voyez, imaginez-vous, dans ces conditions-là, on ne tiendrait pas. Donc ce que transmettent, ce qu'ont transmis ces populations, c'est moins une capacité ou une incapacité à se révolter ou à remettre en cause qu'une capacité à vivre. Voyez, et je prendrai aussi les populations juives qui, après la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, auraient pu être dans un ressentiment, dans une revanche, et ce n'est pas le cas. La force de vivre l'a emporté, et c'est ça la capacité de vivre des populations dominées. Et c'est ça qui est peu interrogé, parce qu'on va plus s'intéresser au fait que les choses ne changent pas et donc on a l'impression que ces populations n'ont rien fait. Mais en réalité, quand vous regardez, il y a une capacité de vivre qui est énorme. Et si vous regardez l'esclavage et autres, tout ce que ça a donné en termes, puisque vous êtes une émission musicale, d'accord, en termes de production musicale, vous voyez, la musique chez l'esclave, c'était quoi? Ce sont des formes de résistance, jazz, blues. On a produit des manières de résister différentes qui vous permettent de vivre. Quand on vous enferme dans une pièce, bah, vous ouvrez le cerveau, vous ouvrez par les arts, vous ouvrez par des mains. Donc ils ont créé des choses qui ne changent pas leurs conditions, donc il ne faut pas être dans l'idéalisme, qui maintiennent des conditions très difficiles, mais ces femmes, parce que c'était beaucoup de femmes et de mères esclaves ou autres, ont transmis une capacité de résistance à leurs petits-enfants que nous n'avons pas chez les ignorants. Qui j'appelle les ignorants, c'est ceux qui sont dominants la plupart du temps. Quand vous dominez, vous êtes dans l'ignorance de la souffrance des autres. Ceux qui n'ont pas affaire à la souffrance n'arrivent pas ou ne peuvent pas comprendre la capacité à survivre à ceux qui sont dedans. Donc c'est plus ça, moi, que je vois que l'inverse.
C'est sûr, le prisme, il est différent.
Sur le plan génétique, je ne pense pas qu'on ait la réponse, en fait. Parce que tout simplement la génétique est une science très récente, donc on n'a pas encore le recul et on ne sait pas définir génétiquement ce que ça pourrait être, une philosophie ou une culturellement il n'y a pas de gène qui soit défini, donc on n'a pas la réponse. Je ne sais pas si on l'aura un jour. Je pense que, comme l'a très bien expliqué Mustapha, qu'on a d'abord une réponse culturelle et une transmission culturelle de tout ça.
Merci messieurs, on va se faire une petite pause musicale et on revient de suite après.
In the morning and I ask myself, is life worth living, should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, killing, he's a hero. Get it to the kids who the hell cares. One less hungry mouth on the welfare. First ship him, don't let him deal with brothers. Give him guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere unless we share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then it changed. That's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
I want to be, only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the gutter and I'm still here.
I see no changes. All I see is racist faces. Misplaced hate makes disgrace to racist. We under. I wonder what it takes to make this. One better place, let's erase the wasted. Take the evil out the people, they'll be acting right. It's both black and white and smoke. Tonight. And the only time we chill is when we kill each other. It takes skill to be real, time to heal each other. And although it seems evident, we ain't ready to see a black president. It ain't a secret, don't conceal the fact. The penitentiary's packed and it's filled with blacks. But some things will never change. Try to show another way, but you're staying in the dope game. Now tell me what's a mother to do. Being real don't appeal to the brother in you. You gotta operate the easy way.
I made a G today.
But you made it in a sleazy way. Selling back to the kids.
I gotta get paid.
Well, hey. But that's the way it is. Come on, come on.
That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh
star and actor Tupac Shakur
The 25-year-old rapper has long been criticized.
Shakur is also charged with weapons. Shakur has two words to say about charges that he sexually abused a 20-year-old woman. Not guilty.
And still I see no changes. Can a brother get a little peace? It's war on the streets and a war in the Middle East. Instead of war on poverty, they got a war on drugs so the police can bother me. And I ain't never did a crime, I ain't have to do. But now I'm back with the facts, giving it back to you. Don't let them jack you up, back you up, crack you up, and pimp smack you up. You gotta learn to hold your own. They get jealous when they see you with your mobile phone. But tell the cops they can't touch this. I don't trust this. When they try to rush, I bust this. That's the sound number two. You say it ain't cool. But it rains no fool. And as long as I stay black, I got a stage strap. And I never get to lay back. Cause I always gotta worry about the payback. Some buck that I roughed up way back. Coming back after all these years. Right, tat, 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 tat.
That's the way it is.
That's just the way it is.
That's just the way it is.
Things will never be the same. That's just the way it is. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah.
Là où les frontières s'estompent, la musique se rassemble. Une émission radio qui célèbre l'harmonie des différences.
Change est un sample du très connu The Way It Is par Bruce Hornsby. 1986, enregistré en 1992, puis remixé en 1997-98, paru à titre posthume et premier single extrait du Best of Greatest Hits. La chanson parle de tous les différents problèmes rencontrés au cours de la vie de Tupac, notamment le racisme, la brutalité policière, la drogue et la violence des gangs.
Oui les amis, en fait, nous étions bien avec Tupac, featuring Talent, avec le morceau Change. Donc on revient à nos amis. Chercheur, donc avec une petite question et tout pour Bernard. Donc, comment les préjugés liés à la race ont-ils pu se développer et persister malgré l'absence de fondements génétiques solides pour les distinctions raciales ?
Oh. Alors, en fait, je pense qu'ils ont perduré dans... Déjà, Moussafa en a parlé, mais y a deux choses. Je pense qu'aujourd'hui, il y a deux types de racisme. On a les suprémacistes convaincus, ceux qui développent une idéologie extrémiste, c'est une chose. Et puis, il y a le racisme ordinaire. Je ne suis pas raciste, mais... Dans les deux cas, il y a... Il faut bien voir qu'il n'y a aucun support scientifique. Ça relève, dans le premier cas, d'une sorte de croyance irrationnelle suprémaciste, et dans le deuxième cas, plutôt de préjugés ou de réflexes primaires. Donc, ça n'a pas, pour moi, ça dénote simplement une absence de réflexion.
Alors, si je peux me permettre, Bernard. Vous n'avez pas fait l'exposition et tout, effectivement, pour ces gens-là, on est bien d'accord. Parce que je suis désolé. Même si vous êtes très, très motivé et très, vous avez la foi, comme on dit, je pense qu'à un moment donné, en fait, on ne peut plus rien faire pour ces gens.
Pour les suprémacistes, non, bah oui. Bien sûr. On
peut non, plus je rien dis à plaisantant, mais bon.
Bien sûr. Non, c'est plus par rapport au racisme ordinaire.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Alors, le titre de l'exposition fait référence au racisme d'hier et d'aujourd'hui. Moustapha, comment pensez-vous que les manifestations contemporaines de racisme diffèrent de celles du passé et en quoi sont-elles similaires ?
Bon, Bernard a bien précisé qu'il y avait des invariants sur la question du racisme. Moi, je pense que ce qui change, c'est le contexte historique. Ce n'est pas le fait le racisme lui-même, c'est les espaces temporels et sociaux dans lesquels il s'exprime qui vont se modifier. On n'est plus en 1930, on n'est plus en 1940. La science a beaucoup avancé. Sur beaucoup de questions. Le droit international a beaucoup avancé. Voyez, je vous rappelle, pour les auditeurs, en France, le racisme est un délit. Oui, voyez, être raciste, c'est être délinquant. Mmh. Ce n'est pas simplement le voleur de mobilier qui est délinquant, c'est y compris le candidat à la présidentielle qui passe sur une chaîne de télévision et qui tient des propos racistes, il peut être délinquant quand il tient des propos. Donc à ce niveau-là, ça a avancé. Par contre, le contexte social, d'aujourd'hui, dans lequel peuvent se tenir ces propos racistes, donne, je trouve, une teneur un peu plus grave au racisme. Parce que exprimer du racisme dans des sociétés, comme l'a montré Delphine Peretti-Courtis dans l'exposition, où les médecins défendaient même l'idée de race et de hiérarchisation entre les races, c'était ça le 19e siècle. Vous voyez, c'était l'époque où la craniométrie, où mesurait les crânes, on disait il existe un crâne caucasien, un crâne africain, et un qui a un cerveau supérieur, l'autre qui a un cerveau inférieur. Quand vous êtes dans ces époques-là et qu'il y a du racisme qui se diffuse, le racisme ordinaire, on pourrait presque le penser comme une conséquence du racisme des élites. En tout cas, du racisme, ce discours scientifique. Aujourd'hui, ce discours scientifique a été balayé. Et donc le racisme est maintenu. Je lui trouve des circonstances moins atténuantes. C'est ce qui rend pour moi, dans l'époque actuelle, le racisme comme un fait plus grave. Ça veut dire qu'on a quelque part des formes de barbarie ou d'archaïsme qui perdurent dans des sociétés qui ont dépassé cet archaïsme sur d'autres dimensions. Donc cela veut dire que le racisme n'est plus une menace simplement pour les populations qui sont soumises à ces expressions, populations dites minoritaires, populations dites étrangères, dites émigrées, dites noires, dites juives. Ce sont plus ces populations, mais le racisme devient une menace pour les sociétés entières elles-mêmes. Parce qu'on a quelque chose qui perdure d'un temps ancien dans des temps nouveaux, donc le racisme devient une menace pour les systèmes ou les régimes démocratiques tels qu'ils se pensent eux-mêmes. Donc ça, c'est un élément important pour moi parce qu'on a souvent tendance à penser que le racisme, c'est l'affaire simplement du noir qui s'est fait insulter dans le métro ou de l'arabe qui n'a pas trouvé un logement. Non, en réalité, le racisme est un problème des sociétés qui l'expriment elles-mêmes et des populations qui l'expriment. Parce que nous indique le racisme ? Ben, il indique la persistance d'une médiocrité scientifique dans la population. Ça veut dire qu'on a des choses qui ont avancé scientifiquement dans ces populations. Il y a des formes de pensée qui ont avancé. Et on a toujours une partie de la population qui est maintenue ou qu'on essaie de maintenir dans des formes idiotes ou médiocres de pensée. C'est ça le racisme. Parce qu'on a souvent tendance à penser que le racisme s'exprime parce que la France est en déclin, parce que les nations sont en déclin. Moi, je pense que le racisme est un indicateur du déclin lui-même. Vous voyez, c'est parce qu'il y a des partis d'extrême droite qu'on peut se dire bah, il y a un déclin de la pensée ou un déclin intellectuel. Donc les racistes sont l'indicateur de ce déclin-là. Et donc on a besoin de s'interroger, qu'est-ce qui les fait perdurer ? Bah, le racisme, c'est expliqué Aimé Césaire, lorsque vous colonisez un peuple pendant deux siècles, lorsque vous produisez un système esclavagiste, comme ça a été produit par les arabo-musulmans, par les Européens aussi, pendant quatre siècles, bah, vous produisez non seulement une idéologie de l'inférieur, mais vous produisez aussi une idéologie du supérieur, c'est-à-dire vous. Et donc il y a deux conséquences du racisme. C'est-à-dire qu'on classe comme inférieure certaines populations et d'autres continuent à penser concrètement qu'elles sont toujours supérieures. Elles finissent par croire aux mensonges qu'elles ont inventés deux siècles auparavant. Et donc il y a des gens qui continuent à penser qu'ils sont réellement supérieurs. Ils pensent cela comme un fait. Donc on a des gens qui sont toujours sujets à des visions qui remontent il y a deux siècles malgré le système scolaire, malgré les avancées. Donc cela doit nous amener à nous poser la question, qu'est-ce qui dans nos institutions laisse perdurer des systèmes de médiocrité en termes de pensée. Vous voyez, alors j'en vois quelques facteurs. Je pense que la classe politique y participe. Vous voyez, par le niveau de débat qu'elle maintient, elle participe quelque part à créer un terrain favorable à la pensée médiocre, à la pensée simple. Je pense aussi que d'une certaine manière, la science n'est pas totalement débarrassée de démons antérieurs ou anciens ou que certaines formes de science, je pense à l'anthropologie qui a beaucoup participé d'une certaine manière à une forme d'exotisation des autres. Ou d'altérisation des autres. Je pense à la sociologie aussi. Parfois, quand elle utilise certains termes et qu'il ne fait pas attention, on altérise à différents degrés. Vous voyez, quand vous avez beaucoup employé le terme d'immigré ou de migrant, nous, ça nous fait réfléchir. Vous voyez, pourquoi on emploie le terme de migrant lorsque un Sénégalais vient en France et pourquoi lorsqu'un Français s'installe au Sénégal, on appelle plus ça un migrant.
C'est un expatrié, ça.
Bah voilà, vous avez trouvé le terme vous-même.
Il est joli, ce terme.
Bah oui, bah c'est ça, les formes d'altérisation différenciées. Pour l'un, c'est expatrié, vrai, c'est valorisant. Ouais. Pour l'autre, migrant, c'est dévalorisant. C'est un pauvre qui vient forcément. Vous voyez, ce sont ces formes de pensée qui maintiennent l'idée qu'il existerait des différences ou de certains supérieurs, certains modernes, d'autres archaïques. Vous voyez, quand on va dans des pays, par exemple, Sénégal, Maroc ou autre, et qu'on est en bande de chercheurs, donc de gens sachants et savants, et que souvent la première phrase, ils disent « Ah, c'est comme en Europe ?» Vous voyez, c'est presque une forme d'aveu, d'aveu non pas de constat scientifique, mais d'aveu d'archaïsme qu'on maintient dans nos cerveaux, ou de forme d'incompétence intellectuelle qu'on n'a pas réussi à dépasser lorsqu'on mesure tous les autres, tout est mesuré par rapport à ce qu'on a comme conception cachée de ce qui est supérieur ou ce qui est moderne par rapport aux autres. C'est-à-dire qu'on est incapable de voir dans les autres formes d'autres manières de fonctionner, d'autres formes de modernité qui ne sont pas forcément équivalentes l'une à l'autre. Et on associe modernité, technologie, argent, capitalisme, production par rapport à d'autres formes. Donc c'est ça qui fait perdurer. Et pour moi, le racisme, il est un problème d'abord pour les sociétés qui l'expriment, beaucoup plus que pour les gens qui le vivent. Et sur ça, je voudrais insister parce qu'il y a souvent l'idée qu'il suffirait de développer des associations antiracistes pour aider les gens qui le subissent. Non, j'ai presque envie de dire, comme le dit Ed Oledge, qui est une journaliste britannique, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Le racisme est d'abord un problème de blanc ». Vous voyez, alors c'est un titre provocateur, mais il dit bien ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que des sociétés qui expriment le racisme sont des sociétés qui vont mal, et qui vont mal pour elles. C'est ce qu'exprimait aussi James Baldwin il y a très longtemps dans un débat en disant « Des sociétés qui acceptent un tel degré de violence envers des Noirs, qui acceptent les lynchages à cette époque-là, qui acceptent de voir des gens pendus, ces sociétés qui acceptent cela ne peuvent pas, elles, sortir indemnes de la violence qu'elles exercent sur les autres. » Et donc forcément, ces sociétés-là sont elles-mêmes touchées par cette forme de barbarie, dans la manière de penser, dans la manière d'agir. Donc pour moi, le racisme est un indicateur aujourd'hui, dans différentes sociétés, de médiocrité et de déclin de la pensée intellectuelle.
Donc, et aujourd'hui, on entend parfois parler de racisme anti-blanc. Est-ce qu'il existe ?
Oui, c'est un débat, et c'est un débat d'ordre idéologique qui est posé. Oui, il y a des gens qui peuvent insulter dans certaines interactions, dire « sale blanc, sale blond », ça existe. Mais ce qui fait le racisme, ce n'est pas simplement, comme tout à l'heure, une altercation, une insulte. C'est en quoi cette insulte va conditionner la vie de l'autre. Voyez, donc si je dis « sale blanc », ça ne vous empêchera pas de trouver un logement le lendemain en passant auprès d'une agence privée. Si je vous dis « sale blanc ».
C'est du racisme ou pas alors ?
C'est une forme. C'est une forme. Pour moi, le racisme, ce n'est pas simplement des insultes, c'est un rapport social. Et c'est là-dessus que je voudrais un peu aller plus loin sur le racisme. Parce que pour certains, on confond discrimination, racisme, insulte, injure. Bon, pour moi, il y a racisme quand vous êtes ce racisme-là, vous maintient dans des rapports de domination extrêmement forts. Donc si je vous dis « sale noir », voyez, et que ce sale noir, on va le retrouver au Maroc, en Espagne, en Italie, en Norvège, aux États-Unis, voyez, dans tous les pays à peu près, on fabrique ce que c'est que le noir. Voyez, il est en dessous en permanence et donc sa vie est difficile, de la prise des transports publics, de monter en bus jusqu'au logement et au travail comme tout à l'heure. Par contre, si vous dites sale blanc, sale blanc, oui, sur le moment, c'est une injure. C'est une injure. Qui est tout aussi injuste que sale noire, qu'il faut combattre parce qu'on ne doit pas l'accepter, mais elle n'a pas la même implication sur la vie de ceux qu'on appelle blancs, de ceux qu'on appelle non noirs, parce que, elle, comme je dis, elle ne va pas conditionner sa vie. Et donc là, je ne peux pas mettre sur le même plan. Vous voyez, comme je disais tout à l'heure, certaines insultes participent à la dépréciation de certaines vies. Je vous donne simplement ce chiffre, à peu près 35 000 morts en Méditerranée. Vous voyez, de gens qui passent, est-ce que ça nous empêche de dormir globalement ? Pas trop, 35 000 morts, pour que les auditeurs comprennent, c'est un peu plus que la ville de Vitrolles en totalité qui disparaît. D'accord, 35 000 morts, c'est deux arrondissements de Marseille qui disparaissent. Vous voyez, c'est pas rien, c'est pour vous donner de quoi incarner. Ça ne nous empêche pas de dormir. Donc c'est ça, le racisme, c'est lorsqu'il instaure un rapport où la mort des autres, la violence qui est exercée vers eux, devient acceptable quelque part socialement. D'accord ? Elle devient acceptable. Je ne dis pas que les gens sont pour, donc ne confondez pas. Mais on peut, même lorsqu'on est antiraciste, on peut quelque part vivre avec, parce que ce sont des formes de violence qui sont acceptables. Comme pendant longtemps, il a été acceptable pour beaucoup d'hommes qu'on mette la main aux fesses aux femmes. Vous voyez, on appelait ça de la drague, on appelait ça, voyez, ce sont des hommes, des libertins. Non, ça s'appelle du harcèlement sexuel. Et ce harcèlement sexuel, il conditionne la vie des femmes, parce que tous les jours, elles ont affaire à ça. Ouais. Donc c'est ça la différence. Alors si on mettait, c'est comme si vous me disiez, alors est-ce qu'il existe du harcèlement sexuel envers les hommes ? Si je mets la main aux fesses à un homme, est-ce que ça serait pareil ? C'est la même question, racisme anti-blanc. Ben oui, si vous mettez la main aux fesses à un homme alors qu'il n'a pas voulu, vous le harcelez. N'empêche que ce geste-là ne conditionne pas la vision qu'on a de l'homme dans la société, ne remet pas en cause sa domination. Voilà les différences pour que vous compreniez sur ces questions.
Après, moi, en fait, j'ai pas fait des études d'anthropologie et tout, etc. Mais si on remonte dans toutes ces sociétés, même antiques, il y a toujours eu, en fait, je pense, ce sentiment et tout de hiérarchiser des gens et tout qui sont supérieurs et tout aux autres. Donc qui a fomenté effectivement après, alors oui, on parlait tout à l'heure en fait de l'esclavage et tout, etc. Mais peut-être bien avant cela, il y avait des populations et tout qui étaient dominées et tout par les autres.
Oui.
Donc.
Oui, il y a toujours eu des formes de domination.
Est-ce que c'est pas quelque chose en fait, je provoque en disant ça, qui est pas inhérent et tout à l'être humain, à l'homme, cette domination et tout par rapport à, en fait à l'autre, qui conditionne un petit peu en gros nos sociétés. Et je dis pas effectivement que le racisme après il prendra des formes après différentes. Puisqu'on l'a bien vu depuis tout à l'heure et tout, on en parle, il en prend depuis toutes ces décennies, ou voire ces siècles. Mais j'ai l'impression en fait qu'il perdurera indéfiniment. Alors, c'est juste ma vision. Hein, donc oui. Après,
cher Laurent, ce que vous dites, je retiens un mot important quand vous dites inhérent à l'homme. Moi, je dirais justement, le racisme est inhérent à la négation de l'idée d'homme ou de l'idée d'humain.
D'accord.
Voyez, c'est ça qui fait le racisme. C'est lorsque on nie l'autre comme étant un homme ou comme étant un humain. Mmh. Et c'est ça qui est un invariant. Toutes les formes de racisme ont participé à produire l'idée que l'autre n'est pas humain, n'est pas homme, ou en tout cas n'a pas atteint. La notion de race, dans la France ancienne, elle était réservée aux nobles. Seuls les nobles avaient une race, historiquement. Mmh. Parce que la race était vécue comme quelque chose de pur. Voyez, après, elle se transforme. Donc la notion, vous avez raison, l'idée de domination a toujours existé. Par contre, ses effets sociaux, les contextes dans lesquels s'exprime, elle est différente. Aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque romaine.
Oui, bien sûr.
Vous voyez, aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'époque un peu magique. On est dans des sociétés où la science a beaucoup produit, où on a 4-5 générations de personnes éduquées. Mm. On est dans des sociétés où le métissage, vous le rappelez régulièrement, est reconnu, est un fait. Donc la notion de racisme ne peut plus être excusée avec l'idée qu'elle a toujours existé. Non, c'est comme si on disait, bah, après tout, il y a toujours eu des exécutions sommaires dans la rue. Ça a été aussi inhérent à certaines sociétés humaines. Ouais. Pour autant, on a réussi à enrayer ça. Vous voyez, on a réussi à enrayer ces questions-là. Pourquoi on n'arrive pas à enrayer la question des morts subies par le racisme? Voilà. Donc, ce n'est pas inhérent aux sociétés humaines. C'est inhérent à l'idée de négation que les autres sont des humains, je pense. Voilà. Mais vous avez raison sur le fait que il y a toujours eu des formes de domination différentes. Et la notion d'esclave, par exemple, elle vient de la notion de slave. Hein, ce n'est pas noir. Les slaves, c'était les esclaves des pays de l'Est. Et pour vous apprendre un peu plus de choses sur ces questions, ils n'étaient pas comptés comme blancs. Hein, les Hongrois, aujourd'hui, qui se prennent pour les suprémacistes avec Orban, les têtes de pont de la nation blanche qu'ils défendent, à certaines époques, ils n'étaient pas comptabilisés parmi les blancs. Comme les Italiens en France, dans les années 30-40, on ne les voyait pas comme blancs. Comme les Irlandais aux États-Unis, à un moment donné, alors vous me direz, les Irlandais sont vraiment blancs, et d'ailleurs, ils sont tellement blancs. Ils n'étaient pas comptabilisés comme les blancs. Parce que la notion de blanc, la notion de noir, non, parce que ce sont des notions sociales. Oh. Ce sont des notions sociales. C'est pour ça que j'ai cité, lorsqu'on a eu la conférence ou l'expo, cette belle phrase de James Baldwin qui dit « J'ai compris très tard, à la fin de ma vie, que le blanc, ça n'existait pas, le noir, ça n'existait pas, mais que le blanc, ce n'était que la métaphore du pouvoir. » Il a tout dit dans cette phrase. Il a compris que la couleur était une métaphore du pouvoir. On peut devenir blanc même lorsqu'on n'est pas blanc. Je me prends comme exemple. Vous voyez, moi, il y a quelques années, j'aurais pu être classé, je ne sais pas, comme gris ou pas totalement blanc. Des fois, il m'arrive d'être déclassé de blanc. Et parfois, on voit bien que les gens vous blanchissent ou n'arrivent pas à vous situer. Et quand les curseurs sont brouillés, c'est la question sociale. Vous voyez, je peux faire un test rapidement, y compris les auditeurs. Si vous fermez les yeux 30 secondes et que je vous dis, imaginez un grand scientifique. Imaginez un grand milliardaire. Vous voyez, imaginez quelqu'un de reconnu, combien de couleurs noires vous voyez? Vous voyez? C'est ça la construction de l'idéologie ou de la pensée. C'est lorsque on a beau être nous-mêmes, voyez, antiracistes, différents, lorsqu'on ferme les yeux, le monde, il est blanc dans certaines catégories. Ouais, donc lorsqu'une société transmet ou diffuse d'elle comme image pour certaines catégories extrêmement valorisées que certaines couleurs, c'est une question. Maintenant, on peut inverser la question. Imaginez des catastrophes naturelles. Imaginez des gens avec plein de maladies. Imaginez des populations pauvres et vous avez la couleur inversée.
Tout à fait.
Cet exercice, tout le monde peut le faire en 30 secondes. Et c'est ça, la force de la présence des préjugés, la différence. Donc, si ça perdure chez nous, c'est que ça perdure aussi chez les autres.
Déjà, il faudrait qu'on s'autodiscipline nous-mêmes, alors peut-être. La solution.
On change de regard. C'est justement le regard.
Ouais, le prisme,
l'appréciation, hein, le prisme. Et le regard, moi je pense.
Alors j'ai une question pour Bernard. Donc l'exposition explore la relation entre les sciences et les préjugés, comme tu l'as exposé tout à l'heure. Donc pourrais-tu partager des exemples historiques de la manière dont les préjugés raciaux ont influencé la recherche scientifique ou vice-versa?
En fait, on a déjà un petit peu parlé, mais Mustapha l'a dit tout à l'heure, au 19e siècle, on avait des scientifiques qui essayaient de hiérarchiser les races humaines en essayant tous les critères possibles et imaginables. La couleur de la peau, bien sûr, mais la forme du crâne, tu l'as dit. Et puis, le fait est qu'ils ne sont jamais parvenus à vraiment à cerner le problème. Et donc, ça a été un exemple où la science a essayé d'interférer avec cette notion de race. Et il a fallu attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que finalement le consensus scientifique soit balayé.
Abandonne
complètement cette idée. C'est ça qui me vient à l'idée. Je ne vois pas d'autres exemples. On a plus de nos jours d'interférences de ce type.
Ok, d'accord. Merci Bernard. On va faire une petite pause musicale, les amis, avec un morceau que j'aime beaucoup. Let's go, DJ.
Everybody. La cité métisse, une onde rebelle qui défie les barrières, un souffle d'ouverture et de fusion culturelle pour rythmer vos journées avec passion et diversité.
Merci Mamène Defray pour ce morceau. Donc on était avec Aristide Development avec Everyday People. Donc ce morceau a été inspiré du morceau Everyday People, single paru en 1968 du groupe américain Sly and the Family Stone. Donc le message de la chanson est: quelles que soient nos origines ou milieux sociaux, nous sommes tous égaux. Cri de protestation envers les préjugés en tout genre. En 1992, Aristide Development en a sorti une version adaptée, extrait de leur album 3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life of, bien entendu en fait, intitulé le morceau que je vous ai cité précédemment.
Bienvenue à la Cité Métisse, l'émission radio qui danse au rythme des cultures, une symphonie multicolore qui résonne dans vos oreilles.
Alors pour reprendre avec nos amis chercheurs, j'ai une petite question en fait pour Bernard. Comment la génétique et les avancées scientifiques modernes peuvent-elles aider à combattre les fausses croyances raciales et à promouvoir une vision plus précise et inclusive de la diversité humaine? Vous avez répondu en partie tout à l'heure, mais...
Oui, on peut préciser. Tout d'abord, il ne faut pas oublier qu'il ne s'agit pas, avec la génétique, de nier les différences génétiques entre les populations humaines. Bien évidemment, on peut les caractériser, d'ailleurs. Elles sont très bien caractérisées, par exemple, pour les gènes responsables de la couleur de la peau. On peut trouver, d'ailleurs, des signatures comme ça qui vont caractériser, sur certains gènes, les populations humaines. Par contre... On l'a déjà dit, hein, la génétique moderne démontre que la notion de race dans l'espèce humaine n'a pas de sens biologique. Il n'y a pas de transmission héréditaire de gènes conférant une race ou une autre.
D'accord. Moustapha, pouvez-vous partager des exemples concrets de certaines des œuvres ou des sections de l'exposition qui illustrent particulièrement bien les liens entre la science, les préjugés et le racisme ?
Oui, il y a plusieurs panneaux de cette exposition qui lient science et racisme, mais je dirais que c'est plus les panneaux qui ont été élaborés par notre collègue qui n'est pas ici, Delphine Peretti-Courtis, et qui a travaillé sur les sciences médicales et leur importance dans les préjugés racistes et dans la justification scientifique des races. 19e siècle en France, avec des grands médecins, des grands anthropologues, des grands scientifiques et qui ont... élaborer des thèses sur l'existence de différences de race, mais pas simplement des différences de race, des différences aussi d'intelligence. C'était jusque-là avec, comme je dis, la taille des cerveaux qui serait plus petit pour les uns, plus grand pour les autres. Donc on a eu la science médicale à pratiquer pendant quasiment un siècle, à produire des sciences de différenciation raciale et à justifier en grande partie par ça les colonisations, les mauvais traitements qui étaient infligés à certaines populations. Donc là, on a affaire à des élites de l'époque. Vous voyez, c'était des élites et ces visions ont perduré, comme l'a rappelé Bernard, jusqu'à quasiment après la Seconde Guerre mondiale, jusqu'aux années 50 quasiment, en termes biologiques, ils perdurent bien au-delà en termes culturels et sociaux. On a toujours l'idée qu'il y a des gens. Et donc là, le lien entre science et racisme est moins un lien entre biologie, génétique et racisme parce que ça a été invalidé. Mais certains, comme je lui propose, certaines sciences, je vous donne un exemple. Lorsqu'on emploie tous les jours société développée et société sous-développée, vous voyez, c'est un terme qu'on entend en économie, en géographie, les enfants l'apprennent à l'école. Alors, ramener à une question purement économique et matérielle, ça peut avoir un certain sens. Et encore même là-dessus, c'est discutable. Mais lorsque la notion de société développée ou sous-développée devient une désignation de certaines sociétés, la notion de développée et sous-développée, elle embrasse une définition bien plus large. Et dans l'idée de développer, il y a l'idée de modernité, l'idée de supérieur et l'idée d'inférieur. Alors, on n'est plus dans l'infériorité comme au 19e siècle, mais on est sur l'idée que, quelque part, certains pays représenteraient ce que la France était au 18e siècle, voyez, et qu'ils ont vocation, ces pays, ce qu'était la France au 18e, 19e siècle, à atteindre la France du 21e siècle. Donc là, il y a lien entre certaines sciences qui ne sont plus les sciences génétiques ou biologiques, sciences économiques, sciences sociales, sociologie, sciences anthropologiques. C'est pour ça que je me bats beaucoup avec certains collègues qui travaillent sur les questions migratoires et qui ne présentent les migrations que sous le prisme pauvres qui vont vers les pays riches, comme je disais tout à l'heure. Mais tant qu'on est dans cette vision, il y a pour moi un lien entre science et production potentielle d'idées différentielles ou d'idées racialisantes de certaines populations. Mais c'est la responsabilité des scientifiques sur le moindre mot que nous utilisons pour désigner au qualifié, parce que qualifier quelque chose, c'est la nommer. Et la nommer, parfois, c'est lui donner une naissance dans le social. C'est-à-dire que c'est plus simplement pour nous quelque chose qui a été construite, mais ça devient presque une nature. Ça nous arrive rapidement. Dès qu'on voit un noir, on lui dit, alors les noirs savent danser. Alors je reprends des éléments basiques. Ils sont meilleurs au sport.
Bien sûr.
C'est ça. Quand les sciences ne font pas attention, elles produisent cette idée que dès qu'on parle de migrants, bah on exclut les 4 millions à peu près de Français qui vivent à l'étranger. Vous voyez, on exclut les 4 millions à peu près d'Allemands qui vivent en dehors d'Allemagne. On exclut les 5 millions à peu près de Québécois sur une population qui est déjà très, très, très faible, qui vivent à l'étranger. Vous voyez, or, ce sont des migrants. Pour moi, un migrant que je rencontre au Maroc, un Français installé depuis 10 ans, ce n'est rien d'autre qu'un migrant comme les autres. Vous voyez, mais lorsque la science n'arrive pas à différencier ça, bah, elle produit cette différence. Donc, comme l'a dit Bernard, ce n'est plus la génétique, mais ce sont d'autres manières. Et là, c'est l'histoire, c'est l'anthropologie, c'est la sociologie. Ce sont les sciences économiques ou la géographie qui participent à produire des différences.
Alors moi, j'ai une question, effectivement. C'est quoi l'essence, effectivement, et tout de ces migrants ? Ils sont alors, parce que là on parlait effectivement du il y a un terme et tout qui reprend générique, pas, on dit pas expat, migrant et tout, etc. Donc toi après tu as englobé effectivement tout cela, mais quelle est la définition, qu'est-ce que recherche effectivement et tout un migrant?
Bah, je pense qu'on va dire qu'est-ce que c'est qu'un migrant. Vous voyez, quand on interroge, pour nous un migrant, définition de l'ONU, c'est quelqu'un qui part d'une zone A et qui s'installe dans une zone B pour au moins un an. Définition générique. Si je prends cette définition, elle ne dit pas que c'est un Africain, elle ne dit pas que c'est un Asiatique. Bah, comme je dis, les Français rentrent dedans, les Allemands rentrent dedans, les Britanniques rentrent dedans. Beaucoup de populations rentrent dedans. Les 5% de la population mondiale qui bouge rentrerait dans cette définition. Or, la notion de migrant ne désigne plus des manières de bouger. Elle désigne en réalité des populations. Et derrière ces populations, on désigne des rapports sociaux à ces populations. Un migrant, dans nos têtes, c'est forcément un pauvre, comme je le dis. Ça ne peut pas être autre chose. Mais c'est ça la force un peu des préjugés. C'est ça aussi la force, la construction sociale des catégories. Voyez, et nous, quand on interroge, avec Flora, on vient du Maroc, on a interviewé, quand on voit les jeunes, qu'est-ce qu'on voit d'abord au-delà du migrant? On voit d'abord des jeunes qui rêvent. Ouais, de quoi ils rêvent, ces jeunes? D'un tas de choses différentes. Et leurs rêves n'ont qu'une vocation, c'est comment garantir pour soi le plus de liberté possible, de souveraineté, de choix sur sa vie. C'est en grande partie, je caricature, je schématise, mais ces rêves sont portés par des éléments d'ordre individuel, collectif, qui ont vocation simplement, les gens quand ils partent pas simplement pour fuir quelque chose, ils partent aussi pour trouver quelque chose qui leur correspond un peu plus. Alors évidemment, les images qui circulent dans les mondes favorisent ça, mais un jeune Français à 20 ans, lorsque vous lui posez la question, on a posé des questions en 1948, il y a un sondage 1948 de Florence Simon, hein, qui était démographe et qui travaille sur ça. On pose des questions aux Français, à peu près plus de 50% des Français souhaitaient partir à l'étranger. La même question posée aux jeunes aujourd'hui, dans une proportion encore plus forte de jeunes Français qui veulent partir à l'étranger. Bah, quand on pose cette question sur le jeune Français, on est sûr, les Français s'internationalisent. C'est ça l'idée. Dès qu'il s'agit d'Africains, il n'y a plus d'idée d'internationalisation. On défend l'idée simplement de dire, si en Afrique aussi les jeunes s'internationalisent. Qu'est-ce que c'est que s'internationaliser? Lorsque vous avez une circulation culturelle aussi forte dans le monde, il y a des jeunes qui sont les produits de cette circulation culturelle. Et donc leur vie, ils peuvent l'avoir très bien au Sénégal, à New York, à Istanbul, à Paris, qu'ailleurs, ils s'internationalisent au même titre que les autres. Donc les gens qui n'appellent migrants, ce sont des gens dont le désir est simplement de pouvoir bouger là où ils ont envie de bouger. Cette envie de bouger, d'aller ailleurs, elle est commune à beaucoup de populations. Donc c'est ce travail-là qu'il faudrait qu'on entame. Alors, ce que je vous dis là nécessite encore d'être travaillé, évidemment. Mais simplement d'arrêter de différencier qu'il existerait. Vous voyez, on est tellement dans cette vision que même les Réunionnais en France, on les voit comme migrants. Vous voyez un peu, si on part de très loin et on les mélange à d'autres populations. Maintenant, il existe des populations qui ont bougé. Si vous prenez les Africains, ils ont bougé sans le vouloir pendant 4 siècles. C'était ça l'esclavage. On les a forcés à bouger pendant 4 siècles. C'était long. Et puis une fois qu'on les a fait bouger, changer de continent, on leur a dit non, là, vous ne bougez plus, vous restez dans les exploitations. Donc on applique toujours un régime, mobilité forcée, immobilité forcée pour ceux qu'on n'a pas envie de voir bouger ou circuler. Et d'ailleurs, les ouvriers en France étaient aussi soumis à une autorisation de circulation du 18e, 19e siècle. Donc le régime de mobilité est toujours restreint pour les catégories sociales les plus basses. Et il a toujours été valorisé et élargi pour les catégories sociales un peu plus élevées, qui ont plus d'argent, qui ont plus de moyens. Et donc on est dans ce régime dual mondial où certains ont la possibilité de bouger, d'habiter 4-5 nations différentes. Ouais, si je vous pose la question, on parle souvent d'un milliardaire français. Ouais, qu'est-ce qu'il a de français, le milliardaire, si ce n'est simplement d'avoir une partie des impôts ici, mais en général, il habite New York. Voyez, il fait ses soirées où il achète ses œuvres d'art en Grande-Bretagne, en général, ou en Suisse. Voyez, il passe ses vacances aux Seychelles. Voyez, il n'a pas en réalité une résidence précise. Il est dans la multirésidentialité, dans une mobilité internationale. Donc pourquoi certains auraient le droit d'être internationalisés, ou en tout cas, on les verrait comme des internationalisés? Et l'autre, dès lors qu'on bouge, on va penser que leur mouvement n'est lié simplement à la pauvreté qu'ils subissent. C'est simplement questionner ce regard. Je n'apporte pas de réponse, je dis simplement questionner ça. Pourquoi on applique deux régimes différents au même mouvement social?
Très bien, c'est très clair. Donc, face aux défis persistants du racisme, quel rôle joue l'éducation et la sensibilisation du grand public? Et comment votre exposition s'inscrit-elle dans cette perspective?
C'est pour moi?
Oui, Bernard. Oui, Bernard.
Qu'est-ce que je peux répondre là-dessus? On en a déjà un peu parlé au début, hein, Mustapha, tu l'as déjà dit. Notre rôle dans la société, moi je le vois comme ça, hein, c'est que on a une tâche de recherche, bien sûr, mais les découvertes qu'on fait, notre rôle, c'est de les transmettre. Hein, et
partager.
C'était l'occasion, justement, cette exposition, de remplir ce rôle. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose.
Alors, Bernard, excuse-moi de te couper, si je peux me permettre.
Vas-y.
Après, j'expliquerai tout en détail, effectivement, ou l'exposition, parce qu'après, peut-être que depuis tout à l'heure, il y a des gens et tout qui aimeraient voir et tout cette expo. Les premières fois et tout où elle a été exposée, c'est à quel endroit exactement?
Eh bien, on a commencé à l'exposer au Camp des Milles.
D'accord. Hein. Ok.
L'idée étant évidemment de ça représentait un lieu symbolique, et donc c'était intéressant de l'exposer là-bas, d'autant plus que
c'était de Caracas, Bernard.
C'était
en début d'année, ça.
Au mois de mars.
C'était
au mois de mars. Ce qu'il y a d'intéressant avec le Camp des Milles, bien sûr, c'est tout ce qu'il y a autour. Notamment le fait qu'il y avait, c'était pendant la période des vacances, je crois, d'hiver, et il y avait beaucoup de classes qui circulaient, qui venaient au Camp des Milles d'un peu partout, pas que de la région PACA d'ailleurs, c'est ça qui était intéressant. On a déjà d'ailleurs eu des contacts comme ça avec des enseignants qui amenaient leurs classes, et donc ça a commencé là, et depuis ça n'arrête pas, on a des demandes sans arrêt. À droite, à gauche. Mais ce qu'il y a d'intéressant avec l'INSERM, c'est qu'on peut la proposer au niveau national, et que donc on a maintenant des associations de Besançon, de Lorraine, qui nous demandent l'expo. On leur donne le site internet où ils peuvent télécharger l'expo, et donc ils impriment eux-mêmes. Donc elle est maintenant diffusée au niveau national.
Mais de toute façon, comme je le disais au début, c'est une expo qui est itinérante. Donc tu peux la...
Alors l'expo en elle-même, on a deux jeux ou trois jeux, je ne sais plus, deux ou trois jeux à notre disposition qu'on fait tourner. Mais comme je viens de le dire, ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'on la propose sur Internet et les gens peuvent télécharger et l'imprimer d'eux-mêmes.
D'accord.
Alors Mustapha, comment espérez-vous que les visiteurs de l'exposition réagissent et quel type de réflexion aimeriez-vous susciter chez eux?
Alors c'est très difficile. Les souhaits, Bernard en a listé quelques-uns pour ce travail qu'il a initié. Moi, ce que j'espère, c'est que ce type d'expo, comme je l'ai dit, produise ou en tout cas participe à conserver des petits espaces dans le climat actuel de contre-courant, de contre-idées, de dire non, ce qui est dit dans beaucoup de médias, ce qui est dit aujourd'hui de manière globale, ne correspond pas au réel. C'est simplement ça. Et presque envie de dire, il faut plusieurs générations pour produire des humains. Et chacun doit y prendre un peu sa part. Et ce type d'expo participe un peu à produire ça. Quand je dis produire des humains, c'est produire des gens avec une intelligence capable de voir ou de se voir dans ce qu'on appelle l'autre. Vous voyez, sans différence. Et ça, y a beaucoup de travail encore à faire. Et ce type d'expo, il a simplement cette vocation à alerter sur qui est celui qu'on traite comme autre, pour que les gens engagent, non pas une réflexion sur les autres, mais sur eux-mêmes. Si on arrive au minimum chez les gamins à produire ça, à dire je peux être celui qui est décrit dans cette expo, dans ces tableaux, on peut déjà participer ou en tout cas ouvrir des formes de dialogue. Mais il faut le voir avec humilité, mais je ne vois pas comment aujourd'hui d'autres types de travail, si ce n'est des petites salles, comme vous faites, une cité métisse avec de la musique. C'est votre manière aussi de participer à cela. L'expo, elle est bien complétée. D'une autre manière, ce que vous faites ici en disant la musique, c'est le métissage. Le métissage, ça dépasse les frontières. Cette expo, elle a vocation à dire ça. Il faut arriver à rentrer dans une ère post-raciale. Et pour rentrer dans une ère post-raciale, il faut déconstruire tous les discours qui veulent maintenir cette idée de race. C'est aussi basique que ça.
D'accord. Alors messieurs, on voulait vous remercier infiniment parce que du coup, en fait, j'ai pas posé mes 40 questions. Donc il va falloir que je prenne rendez-vous avec vous.
On revient.
Pour faire un volet numéro 2, on dit S2. Donc cette émission s'achève par la traditionnelle séance de remerciements et autres dédicaces. Donc de prime abord, et comme à chaque fois, fidèle auditrice, fidèle auditeur, merci à vous pour votre écoute et votre assiduité. Nous sommes très reconnaissants vraiment que Bernard et Mustapha aient pu participer à cette mensuelle de rentrée. Un grand merci à vous, messieurs.
Merci à vous.
Merci.
Pour votre participation, votre pédagogie et vos explications limpides. Ne ratez surtout pas les prochains rendez-vous, comme je disais tout à l'heure à Bernard, pour voir l'exposition dont les événements déjà au programme auront lieu dans, lors de la Nuit européenne des chercheurs à Nice le 29 septembre 2023 et lors de la Fête de la Science au Village des Sciences de Marseille, Nice et la Seyne-sur-Mer. Du 16 octobre 2023. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous rendre sur le site institutionnel de l'INSERM, donc https://www.inserm.fr, ou sur le site du laboratoire de Mustapha, http://lest.fr. De n'importe quel pays, de n'importe quelle couleur, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Pobanaba Nboka Nyoso, Pena Piccolo Nyoso. Donc c'est du Lingala et qui veut dire de tous les pays et de toutes les couleurs. Donc c'est un, pour certains, peut-être qu'ils l'ont reconnu, c'est un...
Bernard Lavilliers.
Exactement, noir et blanc. On va le prendre avec nous, Bernard, dans l'émission.
Je vous rappelle que la Cité Métisse est diffusée tous les premiers lundis du mois de 20h à 21h30 sur Radio Galère, 88.4 de la bande FM à Marseille et sur radiogalère.org sur le canal 8C du DAB+. L'émission sera rediffusée ce vendredi 8 septembre à 20h. Restez connectés avec nous sur la page Facebook de la Cité Métisse et sur le Mixcloud de l'émission mixcloud.com/lacitemétisse pour suivre l'intégralité de nos podcasts. N'hésitez pas à nous adresser vos commentaires et autres remarques en direct au 04 91 08 28 10 ou par courriel à lacitemétisse.radiogalère@gmail.com.
Nous vous souhaitons, les amis, une très belle soirée. Restez connectés sur les ondes de Radio Galère. À très vite. Merci Bernard. Merci Mustapha. Et on n'oublie pas de faire un gros bisou et tout à notre amie Farida.
Bye bye.
À très bientôt.
Merci.
Bye bye. Sense any